Elisabeth, bonjour.
Bonjour Lionel.
Alors, je suis très content de revenir chez vous pour la deuxième fois.
Eh bien, le contentement est réciproque. Je suis très contente de vous accueillir chez moi. Voilà. Bon, la dernière fois, c'était très, très intéressant, très agréable. Enfin, j'ai trouvé ça très rigolo. Je ne sais pas si ça sera la même chose pour les autres, mais c'était assez drôle. Bon, alors, vous voulez que je vous parle de quoi aujourd'hui?
Alors, la dernière fois, vous m'avez parlé de votre père qui, un jour, vous a appris à conduire. Et je trouve que ce serait un très beau départ de raconter cette anecdote parce que c'est tellement important dans la vie de quelqu'un, je trouve, d'apprendre à conduire. C'est très symbolique aussi.
C'est d'autant plus étrange que j'étais la troisième dans le rang des enfants. J'avais un frère aîné, il ne lui a jamais proposé d'apprendre à conduire. Une sœur aînée, il ne lui a jamais proposé. Moi, la troisième, c'est tombé sur moi. De toute façon, tout tombait toujours sur moi. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est comme ça. Alors, un jour, mon père me dit, bon, je vais t'apprendre à conduire. Il n'était pas question de dire non, c'était l'époque. On obéissait, bon, surtout à mon père. Bon. Et bon, ben, il m'a appris à conduire, ça s'est très très bien passé. Comme c'est lui, j'ai dû vous le dire la dernière fois, qui m'a appris à jouer au bridge, qui m'a mis d'autorité au bridge. Je dis, ça tombait toujours sur tout sur moi. Bon.
Et alors, question technique.
Comment?
J'ai une question technique à vous poser. C'était
Non, parce qu'il devait savoir qu'il y avait du moins que
quoi?
j'avais un bon caractère.
Non, mais je veux dire, c'était quoi la voiture?
Ah!
Ah, ben oui, c'est
Alors la
important.
voiture, il en avait trois, plus un chauffeur particulier, mais il n'était pas question, c'était lui qui voulait m'apprendre à conduire. Bon. Alors, me demandez pas ce que c'était parce que j'y connais rien, j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien en voiture. Après, je vous dirai ce que j'ai eu comme voiture. Bon, donc, j'ai dit oui. Alors, papa prenait sa voiture, prenait sur son temps de travail, c'était son propre maître, alors il pouvait faire ce qu'il voulait. Et puis, il m'apprenait à conduire dans les petites routes de campagne.
Où ça?
Et à Dury-les-Amiens, parce que j'ai compris après que c'était pas tant pour que j'aie mon permis que pour délivrer maman, qui était presque prisonnière dans ce petit village qui était à 8 km d'Amiens. Pourquoi Dury-les-Amiens? Deux raisons. La première, c'est que mon père, après la guerre, était horriblement fatigué parce qu'il avait eu des fonctions de responsabilité, mais très, 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 très importantes. Il devait s'occuper du service sanitaire de la ville d'Amiens.
D'accord.
Il était chef de la défense passive. C'est lui qui allait ramasser les cadavres et les blessés.
La défense passive.
La défense passive, on appelait ça. Et mon père s'est rendu compte. Là, je fais une parenthèse. Je vous raconterai après pourquoi le permis de conduire. Mon père s'est rendu compte que la défense passive n'était pas du tout organisée. Panique dans la population. Vous devez le savoir quand même. Vous ne regardez pas la télé, mais vous le savez. Les gens fuyaient sur les routes, empêchant le matériel de guerre de passer. C'était la panique et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts dues à la panique. Et mon père, qui était chef de la défense passive, s'étant rendu compte de cela, après la guerre, a créé la protection civile. C'est lui qui a créé la protection civile, qui
D'accord.
était quand même plus organisée au niveau national. Avec les ordres, ce qu'on appelait la maréchaussée, la gendarmerie, la police, etc., etc. Bon, alors, pourquoi? Alors, papa, très fatigué par ses fonctions, ses hautes fonctions pendant la guerre, et n'oubliez pas que pendant la guerre, il n'y avait pas seulement les bombardements, ça faudra qu'on en parle un jour, il y avait les épidémies. Or, mon père avait un laboratoire d'analyse médicale, et donc, maman étant laborantine, il travaillait, il travaillait, il travaillait pour essayer d'enrayer les épidémies dont les Allemands avaient une peur bleue. Et papa était très fatigué. Alors, après la guerre, Amiens était un champ de ruines. Je sais maintenant pourquoi. Amiens n'était pas une ville spécialement intéressante pour les Allemands. Il n'y avait pas d'industrie, ça se trouvait à Lille, hein, les filatures, les mines de charbon et tout. Même si nous sommes cousins germains, voisins, mais pourquoi Amiens a été tellement démoli? Parce que ce cinglé d'Hitler était persuadé que le débarquement aurait lieu à Calais, à Dieppe, par là. Bon, comme nous sommes voisins, bon, Amiens a été rasé. Donc, après la guerre, papa a dit, j'en ai marre, je suis fatigué, je me retire à la campagne. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous nous sommes retrouvés dans une très très jolie maison, au milieu d'un immense terrain qui faisait je ne sais pas combien d'hectares, à 8 km d'Amiens. Mais maman ne savait pas conduire.
Ah.
Et maintenant, je sais que papa m'a, je ne dis pas forcé, mais m'a dit, tu vas apprendre à conduire. C'était surtout pour que je véhicule maman. Voilà, pour ses courses, pour la promener, etc., etc. Parce que ma pauvre maman avait beaucoup travaillé aussi. Elle était infirmière laborantine. Elle avait beaucoup travaillé aux côtés de papa. Donc, quand on s'est retrouvé dans cette maison à la campagne, il fallait absolument au moins deux voitures. Bon.
Vous aviez quel âge ?
Après la guerre, il a fallu quand même que j'attende. C'était comme maintenant 18 ans avant d'avoir mon permis.
Mais lui, il vous a appris à quel âge ?
Tout de suite, dès que j'ai eu 18 ans.
D'accord.
Tout de suite, il n'a pas attendu plus. Hein. Bon. Alors, je suis très fière de vous dire que j'ai eu mon permis du premier coup. Alors, il fallait quand même que je m'inscrive dans une école pour passer le permis.
Ouais.
Bon. Alors, comme vous connaissez l'espèce humaine, il fallait quand même que je prenne quelques leçons parce qu'il n'y avait pas la conduite accompagnée à l'époque.
Ah, vous connaissez la conduite accompagnée, hein?
Non, à l'époque, ça n'existait pas.
Oui, ouais, mais vous connaissez le...
Maintenant, je le sais parce que mes petits-fils l'ont pratiqué. Alors, il a donc fallu quand même que je m'inscrive dans une auto-école. Bon. Et puis là, je suis tombée sur un moniteur. Je ne pouvais pas le blairer. Mais alors, je ne pouvais pas le blairer, celui-là. Alors, bon, ben, j'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, c'est très joli l'auto-école, mais moi, je ne continue pas avec ce gars-là. Papa me dit, bon, ben, je vais aller voir le directeur, on va en changer. Voilà.
Tout simplement.
Oui, alors, on a changé de moniteur. Et c'est pas pour ça que j'ai eu mon permis du premier coup. Attention, non, non, non. Parce qu'il me souvient d'un truc très, très drôle. Bon, ben, le permis de conduire, les signaux de l'époque n'étaient pas les mêmes que maintenant, forcément. Bon. Mmh. Mais enfin, la conduite reste la même. Pour se garer, c'est pareil. Faire les créneaux, c'est pareil. Alors, je me souviens d'un truc très drôle. Je peux pas vous dire que j'avais le trac, non. J'avais bien travaillé avec papa, bien circulé avec papa. Il m'avait fait faire beaucoup de créneaux, beaucoup de choses. Il m'avait bien appris à conduire. Mais je me souviens que le jour du permis de conduire, au moment où le moniteur me demande de faire un créneau, il y a un chien qui se met derrière la bagnole et qui fait sa crotte.
Ah.
Bon, alors ça m'a... Et puis il a mis du temps à faire la crotte. Alors bon, il a fallu que j'attende, etc., que je reprenne le créneau et tout. Mais le moniteur avait vu que c'était pas de ma faute, c'était la faute du chien.
Mmh.
Bon. Et puis j'ai eu mon permis de conduire. Et je suis revenue au laboratoire en brandissant la feuille rose. Parce qu'on nous délivrait une feuille rose.
Le papier rose, oui. Ouais.
Voilà. Alors j'ai mon permis de conduire depuis des années. Et donc, je m'en suis pas beaucoup servie. Je m'en suis servi le temps où j'étais à Durée-les-Amiens, puisqu'après je suis partie à Paris pour faire mes études. Bon, mais je revenais les week-ends. Et puis, ben là, je reprenais la voiture. Et papa m'a dit, bon, je t'achète une voiture d'occasion. Il m'achète une voiture d'occasion. Ah, le salaud! Pardon, papa. Il m'achète une Panhard.
Ah ouais?
Ouais. C'était pas facile à conduire.
Ouais.
Vous avez connu les Panhards?
Je connais deux noms. Hein. Ouais.
C'est, C'était pas maniable. Et puis alors, elle était
dans... Je suis jamais monté dans une Panhard.
Ah bon?
Non.
C'était vaste, il y avait quatre places, quatre portières. Bon, et ça prenait de la place pour les créneaux, hein. Bon, et puis elle était d'occasion.
Mais pourquoi il a choisi celle-là?
Oh, je sais pas, moi, je n'ai pas demandé. Moi, non. Il m'a acheté
une voiture. Une voiture,
Il m'a acheté une voiture, bon. Alors, il me souvient aussi qu'un jour, il va falloir que je passe l'aspirateur, vous dites que c'est vrai que je viens de goûter. Il me souvient qu'un jour, bon, j'étais en pleine ville à Amiens, avec ma mère. J'avais dû l'amener faire des courses ou je sais pas quoi. Est-ce que en mettant le contact, la voiture se met à prendre feu? Et heureusement, ça se trouve, j'étais garée sous les fenêtres du laboratoire de papa. Hein? Alors, des cris dans la rue. Moi, j'en avais tellement vu avec les bombardements, ma mère aussi, que bon, on est sorti de la voiture et puis c'est tout, on n'a pas crié, hein. Mais papa a mis la... Bon. Et puis quand il a vu que la voiture était pourrie, hop, il m'en a acheté une autre.
Elle n'a pas fait long feu alors, hein?
Ah non, non, si non, peut... non, il n'a même pas essayé de la faire réparer. Voyons.
Vous l'avez gardée combien de temps?
Je l'ai gardée, cette voiture, pas longtemps, 3 mois.
Ah oui, disons, c'est rapide.
Oui. Et alors, venez de sortir sur le marché... Une petite voiture qui était sensationnelle, qui n'a pas tenu le coup d'ailleurs, une petite Vespa,
ouais.
Une petite voiture italienne, est-ce que vous vous en souvenez?
Je vois les Vespa, mais enfin après, celle que vous aviez, je ne sais pas.
Pas les Vespa.
Oui, pas le scooter, enfin pas... Oui.
Pas le scooter, la
voiture. Non, je ne vois pas.
Alors ça, c'était formidable.
Ah ouais, c'est ça, la c'était maniable.
Même, pour les créneaux, ça ne prenait pas de place, il n'y avait que 2 places avant. Et puis une petite banquette arrière pour y poser les sacs, les valises. Et j'ai gardé cette voiture tout le temps que mon père a vécu. Il avait les siennes, je vous dis, il y en avait 4 à la maison. Et...
Votre père était amateur de voitures alors?
Non, il n'était pas du tout amateur de voitures parce qu'il n'a jamais... Il a essayé de conduire, mais malheureusement, son destin a fait que... Il a tué 2 personnes en voiture. Mais ce n'était pas sa faute. Il n'est même pas passé devant les tribunaux. 2 personnes qui n'étaient pas ensemble, à des années de distance, se sont suicidées, se sont jetées sous ses roues.
Ah bon?
Alors, il y a eu enquête de police, évidemment. Hein? Bon. Et bon, c'était des gens... Parce qu'il faut vous dire aussi, pourquoi Durie-les-Amiens? Parce qu'entre Durie-les-Amiens et Amiens... capitale de la Picardie, existait le plus grand asile de fous de France.
Ah bon?
Un peu ce qui correspond à Cadillac maintenant, ici dans la région. Or, papa allait faire les prélèvements chez les fous, chez les malades mentaux. Il avait une telle trouille, mon père, d'y aller. Il disait toujours, quand j'étais là, bien sûr, tu m'accompagnes. Parce que dans ce genre d'affaires, il disait, dans ce genre d'établissement... On sait toujours quand on y rentre, on ne sait jamais si on va en ressortir. Bon, alors donc, j'accompagnais papa. Je vous dis, tout ça tombait toujours sur moi, tout. Bon, et puis...
Vous aviez une relation particulière avec votre
oui,
père.
Oui, ouais. oui, je pense que j'étais sa préférée. Mais j'ai rien fait pour. Hein.
J'ai pas l'impression.
Non, j'ai rien fait pour. Seulement, c'est tombé comme ça. En plus, papa...
Des fois, dans des histoires de famille, dans les fratries ou quoi, où il y a la fille, elle est mise de côté par le père notamment. Mais vous, il vous a vraiment élevé.
Il
vous a élevé.
Ouais. C'était moi, j'ose dire, qui était à la fois le garçon, la fille. Ouais, je ne sais pas.
C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais.
Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas. Et il m'a toujours fait confiance pour tout, d'ailleurs.
Et sans, j'ai l'impression, sans le dire non plus, sans être très très démonstratif, mais en le faisant les choses tout simplement, quoi.
Oui. Ouais. Oui, oui.
Et ça, c'est génial.
Oui. Et je dois dire que le drame de mon père, entre autres, ça n'a pas seulement été la guerre. Entre autres, c'est qu'il avait toujours rêvé de faire une carrière de violoniste.
Ah oui.
C'était un violoniste merveilleux. Je me souviens, avant la guerre, tous les soirs à la maison, il y avait le quatuor à cordes avec ses collègues, les docteurs Fécamp. C'était marrant, c'était des jumeaux. Ils se ressemblaient, on ne les différenciait pas, et ils étaient médecins tous les deux. Et papa, et puis il y avait un altiste, alors celui-là, je ne sais plus comment il s'appelait. Moi, j'étais baignée de musique. Baignée. Après, il y a eu la guerre, tout ça, évidemment. Donc, papa avait toujours voulu faire une carrière de violoniste. Mais à l'époque, du temps des parents de mon père.
Ouais, ça c'était pas.
C'est-à-dire mes grands-parents, c'était pas bien vu. Alors mon père a quand même pu se payer, grâce à son travail, un très très bon instrument.
Il a commencé tard du coup à apprendre ou...
Oui, il a commencé tard, mais il a très très vite
compris.
Très très bien joué. Ouais. Très bien joué. Et donc, quand il a vu que j'étais une artiste en herbe, ça nous a, si vous voulez, rapprochés. Et puis ça l'a sécurisé vis-à-vis de maman, qui, elle, avait les pieds beaucoup plus sur terre. Et elle n'était pas contre les arts. Elle-même jouait du piano, mais elle avait joué du piano contrainte et forcée, ce qui n'est pas pareil. Et si vous voulez, papa et moi, on faisait bloc contre maman. Cette passion pour les arts, parce que j'aimais beaucoup la musique aussi, hein, nous rapprochait.
Et du coup, comment s'est fait le choix de votre instrument, le vôtre ?
De ma vocation, de mon instrument.
De musique.
Oh, alors là, c'est une histoire triste. Je n'ai pas appris le piano. Mon père était très spécial. Au lieu de nous faire faire du latin, il nous a fait faire du solfège. Nous étions quatre, tous les quatre solfège. Bon, peut-être dans l'espoir qu'après on ferait un instrument. Bon, mes frères, pas question. Les instruments, la musique, ça ne les intéressait pas. Bon, mais ma sœur et moi, quand même, un peu. Et nous n'avons pas appris le piano, sauf pendant 2 ans, à tout casser. Une chose très, très difficile, parce que papa avait sorti des décombres une dame, le père, le mari, le frère avait été tué lors de ce bombardement, et elle, seul rescapé, avait eu une jambe arrachée. Il fallait vivre, parce que c'était pas comme maintenant, hein. On ne donne pas de l'argent qu'on n'a pas. Ouais. Quand on en a, on en donne, mais en ce moment, quand on n'en a pas, on en donne aussi. Hein. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Donc papa, par charité, a trouvé une sorte de clientèle d'enfants à cette dame, pour qu'elle nous donne des leçons de piano, parce que cette dame savait jouer du piano, parce qu'il faut vous dire que dans ces milieux bourgeois d'autrefois, bourgeois bon sens du terme, il n'y avait rien, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Bon, alors il y avait beaucoup, beaucoup de familles qui faisaient apprendre la musique à leurs enfants. Bon. Donc cette dame était capable de nous apprendre, de nous débuter au piano. Mais ma sœur et moi, on n'a pas supporté, parce qu'elle nous donnait les sons de piano de son lit. On savait qu'elle avait eu ce qui lui était arrivé, qu'elle avait une jambe en moins. Et puis, mettez-vous à la place, parce qu'on n'était quand même pas... On était encore jeunes, hein, après la guerre. Ça nous a... Un jour, on a dit à papa, on ne peut plus.
Ouais, c'était lourd à porter.
Ça nous fait mal, ouais. Et alors, donc, moi, j'ai arrêté le piano. Et puis... mais... Comme je répète, on avait déjà fait des années de solfège, au lieu de faire du latin, je peux donc lire la musique. Et quand on lit la musique, les doigts se mettent mieux en place et plus vite que d'être là. qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Attends, je vais chercher. Non. Voilà pourquoi je peux massacrer aussi bien Debussy que Chopin et faire illusion. Mais je ne suis pas pianiste. Parce que...
Vous n'êtes pas pianiste, ça veut dire qu'à la maison, est-ce que ça arrivait que votre père prenait le violon, votre mère jouait du piano et vous...
Oui, voilà.
Ensemble, vous jouiez ensemble? Tous ensemble?
Non, on écoutait.
Vous écoutez, les écoutiez les uns les autres?
Oui. Et en plus, j'avais une grand-mère d'Andaï et grand-père, qui avait perdu d'ailleurs un bras, qui était officier, mon grand-père, un bras dans les tranchées. Je dis qu'il a eu de la chance. Il a perdu un bras. Il n'est pas mort pendant la guerre 14. Nous en sommes là. Il a eu la chance de perdre un bras. Vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets. Hein.
J'ai compris.
Donc, adieu la carrière d'officier. Et à l'époque, on donnait aux estropiés de la guerre 14, et Dieu sait qu'il y en a eu. Ou aux veuves, ou aux orphelins de guerre, on donnait un bureau de tabac. Parce que à l'époque, on ne savait pas que le tabac tuait. Il paraît que le tabac, ça tue.
On n'était pas au courant à
l'époque.
On fumait.
Maintenant, il ne faut plus fumer. Il faut libérer la drogue. C'est formidable. Enfin, bon, cherchons pas à comprendre. Non. Alors, donc, grand-père a hérité un bureau de tabac. Parce qu'on hérite quelque chose de quelqu'un. Il a hérité un bureau de tabac du gouvernement. Mais, donc, habitant Andaï, il fait quand même froid l'hiver en Andaï. Puis c'était l'époque où les familles étaient très soudées. Ils venaient passer tous les hivers à Amiens, dans la Somme, chez papa-maman, où ils avaient chaud, il y avait l'ambiance familiale, les petits-enfants. Et en plus, il y avait un piano. Et ma grand-mère chantait.
Ah, en plus.
C'était une Italienne.
D'accord.
Mais pure souche. Elvira Isidori. Elle disait toujours Elvira, c'est moi. Elle chantait très bien. Elle a fait une création d'ailleurs d'une valse. Je suis lâche avec toi, ça s'appelait. Bon. Et
comment
avec
ça?
Avec les rouleaux de cire, là.
Ah oui.
Oui. Bon, elle chantait très bien. Donc j'ai été gorgée de musique. Gorgée de musique.
Et vous comprenez l'italien?
Pardon?
L'italien, vous le comprenez?
Ah, mais non, elle chante en français, elle s'en foutait. Elle chantait la traduction.
D'accord.
Elle avait épousé mon grand-père qui était né au Pays Basque. Mais alors là aussi, c'est une histoire. Je suis très mélangée, vous savez.
Aujourd'hui, on voyage.
Oui, mais notre temps ne voyageait pas. Grand-père, le mari de ma grand-mère italienne, est né au Pays Basque parce que son arrière-grand-père était turc.
Ah bon?
J'ai du sang turc dans les veines. Il avait été fait prisonnier.
Maintenant que vous me le dites...
Pardon?
Maintenant que vous me le dites...
Ça vous semble normal?
Ah bah oui, complètement.
Ah bon, pourquoi?
Je rigole. Ah, je crois que vous avez le téléphone.
Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Allô? Bonsoir Pierre-Olivier. Bon, écoutez, je vous rappellerai parce que je suis en pleine interview. Je vous rappelle ce soir. Grosse bise, au revoir. Alors là aussi, il y a encore raconté. Bon, enfin bref. Alors, où en étais-je?
Eh bien, on en était à la Turque.
Ah, alors, Napoléon
au côté turc.
Côté turc. Alors, Napoléon Ier a fait prisonnier un de mes aïeux, c'est-à-dire côté grand-père, le mari de ma grand-mère qui était pure souche italienne. Et il a fait prisonnier cet officier turc qu'il a ramené dans ses bagages, qui lui a servi d'ordonnance et pour lui cirer les bottes. Et cet officier turc a fait souche au Pays Basque. Et c'est comme ça que mon grand-père est né. Et puis, il a rencontré ma grand-mère parce qu'en Aïe, c'est frontalier, l'Espagne. Parce que ma grand-mère, elle, est issue... Oh, c'est toute une histoire aussi, ça, mais c'est trop long. C'est trop long, moi, je pourrais écrire un bouquin. Hein.
Ah ben, il va falloir. Hein.
Il faut vous dire que la mère de ma grand-mère, l'italienne, celle qui chantait, et qui a rencontré mon grand-père... descendant d'un officier turc. Ils se sont rencontrés au Pays Basque. Pourquoi le Pays Basque? Parce que ma grand-mère, l'italienne, oh, ça remonte à loin tout ça, c'était l'époque où les Basques voyageaient beaucoup et pêchaient la morue.
Ouais, ouais, ouais.
Ça, vous le savez.
Oui.
Bon. Et puis, il y a une portion de cette famille... qui a décidé d'aller s'installer en Argentine.
Oui, comme ouais, beaucoup de oui.
Comme beaucoup de Basques.
Absolument.
Pourquoi en Argentine, je ne sais pas. Il n'y a pas de morue en Argentine.
Moi non plus, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas...
Ouais. J'aurais dû leur demander, mais on ne peut pas penser à tout. Alors, il y avait donc six petits-enfants, dont mon arrière-grand-mère, la mère d'Elvira, c'est moi, l'italienne. Elle était trop petite pour faire le voyage. Elle est donc restée. Elle a été confiée au Pays Basque à des oncles et des tantes. Heureusement, parce que toute la famille et ses frères et sœurs, donc les cinq autres frères et sœurs, qui étaient partis en Argentine, ils ont tous été assassinés en une seule nuit.
Ah bon ?
Parce qu'ils avaient une briqueterie, ça rapportait de l'argent. Et puis, on assassinait aussi, on a toujours assassiné, on assassinera toujours. Bon. Et alors là, elle étant confiée à cette branche de famille qu'habitait le Pays Basque, c'est là qu'elle a rencontré mon grand-père, qui est descendant de l'officier turc.
D'accord.
Voilà. Très compliqué, tout ça, très compliqué. Voilà. Et puis, alors pour en revenir à la conduite...
Elisabeth, vous êtes fantastique parce que c'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Pour conclure notre entretien d'aujourd'hui, moi je me pose une question, je me dis, votre dernière voiture, c'était quoi?
Ma dernière voiture, eh ben, ça a été une deux chevaux.
Vous avez une deux, ah ouais?
Une deux chevaux. J'ai conduit une deux chevaux.
Donc la Vespa, vous l'avez gardée très longtemps, et la Dodge aussi, alors
La Vespa, je l'ai gardée longtemps, je l'ai rendue à papa, parce que nous sommes allés je me suis mariée, j'ai fait mes études à Paris, je me suis mariée, et puis on a acheté une deux chevaux, et puis j'ai conduit une deux chevaux, voilà. Où on a fait quand même assez de montagnes avec, puisqu'on allait en Espagne. À l'époque, il n'y avait pas les tunnels sous la montagne.
Et est-ce que la conduite était équilibrée?
Ah, c'était merveilleux à conduire.
Ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'était est-ce que vous la conduisiez autant que votre époux ou c'était...
Ah non. D'ailleurs, j'ai cessé de conduire à cause de mon mari.
Ah.
Parce que comme on n'avait qu'une voiture pour deux, je ne supportais plus que quand je prenais la voiture, j'étais sûre, mais sûre. Non. Qu'il était appuyé là à la fenêtre
pour surveiller.
Si c'était pas, moi je l'intéressais plus, mais si la voiture était en bon état, ça j'en étais sûre. Alors un beau jour, j'ai dit, et puis nous partions à Marseille. Alors j'ai dit à Marseille, t'as plus besoin de voiture, tu laisses ça deux chevaux, qui s'en débrouille. Et puis moi j'avais plus besoin de voiture parce qu'à Marseille il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Et je n'ai jamais repris, si j'ai repris un peu la conduite en Espagne, en Cassis, chez ma sœur. Voilà. Elle ne me demandait pas la marque de sa voiture, c'est un 4x4 qui fait la montagne.
C'était il y a longtemps, ça?
Oh ben, il y a bien une quinzaine d'années.
Ah ouais.
Maintenant, ça fait 15 ans que je ne conduis plus. D'abord, je ne vois plus, je vois que d'un œil.
Donc la dernière fois que vous avez conduit, c'était un 4x4?
Oui.
Pas mal, ça vous ressemble.
Oui. Je ne sais pas. Mais bon, moi, ça ne me manque pas. Quand je me suis retrouvée toute seule ici, Isabelle, ma fille, m'a dit « Maman, il faut que tu te rachètes une voiture, que tu puisses être libre, aller à la plage et tout. » Bon, non. Non. J'ai tout ce qu'il faut, même si le tram n'était pas fait à l'époque à Bordeaux. Puis aller à la plage El Carci Tram, je paye 0 francs 0 centime. J'ai pas racheté de voiture. Pourquoi ? Pour m'embêter, pour avoir des PV, tourner pour se garer. Pas besoin de voiture.
C'est vrai que maintenant, on tourne de plus en plus. Les villes sont faites maintenant pour être sans voiture. Oui,
oui je sais, mais c'est... Il y a longtemps que je l'ai compris dans l'arrière-pensée de Juppé. Il y a longtemps que je le sais. Qu'il arrivera un jour, moi je le verrai peut-être pas vu mon âge, mais Bordeaux sera sans voiture. Il nous le prépare depuis longtemps, ça. Et puis après tout, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
C'est bien une ville sans voiture.
Bah écoutez, moi je suis content de notre entretien.
Ah ben, si vous êtes content,
et je suis content de cette dernière note 4-4. C'est excellent.
Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Bon, ben, il faut s'adapter à tout. Si. Heureusement que je suis comme ça, Lionel. Qu'est-ce que j'aurais fait sinon ? Toute seule. Ça fait quand même bientôt 30 ans que je suis toute seule. Hein. 30 ans. Alors, bon, il n'y a pas si longtemps, j'avais encore assez de force pour le tournevis. Mais là, tout à l'heure, le plombier est venu. Je lui ai demandé de me... J'ai dit, j'ai plus de force.
Avant de venir vous voir, j'ai pensé à vous fortement.
Ah bon ?
Oui, j'avais beaucoup de pensées pour vous et l'entretien qu'on avait à avoir. Et j'avais des références au monde de la voile. Et je me disais, Elisabeth, c'est une femme, qui sur un voilier, mais elle, ça tangue pas. Elle tire des bords, mais elle, ça va tout droit, quoi.
Mais il faut.
Elle tient la barre.
Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je coule, je ne veux pas couler. D'abord, ça ferait plaisir à trop de gens. Je ne veux pas leur faire ce plaisir. Bon, tiens, entre parenthèses, arrêtez votre truc, là.
Ah bon, je l'arrête maintenant, là ?
Oui, ça sera pour une autre fois. Figurez-vous que on m'a contacté pour faire un court-métrage.
Ah.
Oui. Et puis, on m'a passé une carte. Là, il y a un photographe qui veut me rencontrer. Je ne sais même pas qui c'est. Et lui me connaît, d'où, je n'en sais rien. Il paraît qu'il a été impressionné par ma personnalité, alors il veut me rencontrer. Bon. Alors, vous voyez que je ne suis pas sans...
Vous ne vous tournez pas les pouces.
Non, non, non. Et puis, quoi que vous disiez, là, l'autre jour, c'était les Vikings. Si ce n'est pas les Vikings, c'est l'égyptologie. Il faut savoir s'en servir. C'est comme une voiture.
Apprendre.
Il faut apprendre. Toujours apprendre. Et là, je viens de terminer un livre passionnant. Où ma conviction est irrémédiablement faite. On en parlera pour un autre entretien. Et là, bon, ça ne se lit pas, puisque c'est un dictionnaire. Mais vous voyez que j'ai quand même la chance, puisque je n'ai pas le déambulateur, j'ai la chance quand même de m'intéresser à des tas de trucs.
Dictionnaire de psychologie et psychopathologie des religions. Quel sujet ! Et c'est un pavé.
Ah, oui, mais attention, vous cherchez ce qui vous intéresse.
Oui, bien sûr.
Parce que pendant nos études, on faisait de la théologie.
Ah oui, j'ai pas connu ça, moi.
Non, mais parce que la musique sacrée et les sujets bibliques, ben, il faut quand même connaître un peu la religion, les religions. Donc, maintenant, bon, ça sera une autre interview. Vous avez arrêté, hein ?
Non, j'ai pas arrêté.
Bon, menteur.
Je vous promets, j'ai pas arrêté. C'est intéressant. Mais c'est intéressant ce que vous dites.
Mais
pas
oui,
arrêté.
Mais alors si je dis tout aujourd'hui, qu'est-ce qui me restera
bon,
à dire
alors,
après ?
On envoie une page de pub. Rouler en 4x4. Allez, on rend l'antenne, Elisabeth.
Non, mais moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que... On s'intitule comédien, on s'intitule sculpteur, peintre, et on n'apprend pas, on n'a pas les bases. On les a pas. Nous, on faisait de la théologie, je viens de vous dire pourquoi. Voilà, on faisait de l'histoire, on faisait de la littérature, on faisait de la danse, on faisait de l'escrime. Je séchais les cours hein, d'escrime, je détestais ça. Bon. Mais j'ai appris à danser avec un danseur étoile de l'Opéra Garnier. On avait une formation totale de comédienne, comédienne lyrique, bien entendu. Hein, il fallait jouer d'un instrument. On allait à la chorale parce que la chorale...
Ce que vous me dites, ça me fait penser à comment sont formés les artistes aux États-Unis. Ils ont une formation très complète, acteur studio.
L'acteur studio, voilà. C'est comme ça. Comme ça, oui. Tandis que maintenant, bon, ben, ça donne ce que ça donne, quoi. Voilà, vous vous emmerdez. Moi, j'en connais beaucoup, qui ont payé très cher un billet au Pain Galant pour aller voir la Comédie Française, et qui m'ont dit, on est bien élevé, on n'a pas voulu déranger le banc, mais nous sommes partis. Nous aurions aimé partir. Voilà.
Merci.
C'est terminé, cher monsieur.
Je pense qu'on peut dire que c'est terminé pour aujourd'hui.
Bon, très bien. Bon, puisque vous avez vraiment arrêté...
Non, pas encore. J'ai pas encore appuyé sur le bouton.
Appuyez.
J'appuie, de suite. Au revoir, Elisabeth.
Au revoir, Lionel, et merci.